Nous sommes trois professionnels virtuels et en isolation en éducation.
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux sommes toutes chez nous, derrière nos écrans, dans cette nouvelle réalité sans précédent.
Dans cette série en confinement, nous parlerons de sujets tels que le lien affectif, la planification, l'évaluation et bien plus encore.
Et cette fois-ci, dans le contexte de l'enseignement à distance. Bonjour et bienvenue à toute la classe! Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale, gang! Oui, c'est une journée spéciale parce qu'on a des invités. Alors, si vous êtes tannés de nos voix, et nous sommes tannés de nos propres voix, on a quelque chose de spécial pour vous. Deux invités, nos collègues, France Ringer et Annie Bellemare.
Allô, oui. Les filles!
Bonjour à tous, puis merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin.
Alors, mesdames, qui êtes-vous et que faites-vous? Ça, c'est une question simple quand même.
Allô, alors moi, c'est France Wingert et je suis conseillère pédagogique en enfance en difficulté, donc dans l'autre équipe du conseil scolaire Viamonde.
Et moi, je suis une collègue de France également, Annie Bellemare, conseillère pédagogique aussi pour le conseil scolaire Viamonde. Je travaille majoritairement dans la région de Toronto.
Alors là, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a un thème entre nos invités, ce sont des conseillères pédagogiques en enfance en difficulté, parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. On veut savoir, aujourd'hui, là, on veut savoir comment est-ce qu'on fait pour s'assurer, pour veiller à la réussite de tous pendant cette période d'enseignement à distance. On commence par où? Comment est-ce qu'un enseignant titulaire peut veiller à ce que ses élèves en difficulté puissent réussir?
Bien, je pense que c'est vraiment un travail de collaboration. Puis, il y a eu des grandes discussions. Puis, je pense qu'il y a eu aussi une période d'adaptation pour les écoles. Et donc, pour s'organiser avant de commencer à donner les cours en ligne pour tous nos élèves. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, l'enseignant titulaire travaille vraiment de très près avec l'enseignant ressources, avec le personnel de soutien, que ce soit les éducateurs spécialisés et les aides-enseignants. Et il y a eu des horaires qui ont été faits pour aussi s'assurer que tous nos élèves aient des temps de soutien individualisés. Donc, c'est vraiment un grand travail de collaboration, puis de différenciation, puis d'harmonisation des pratiques pour soutenir tous nos élèves.
Mais là, si je comprends bien, c'est que les élèves qui avaient un plan individualisé avant le confinement, les directives qui sont dans le plan sont encore respectées même pendant le confinement.
Et en fait, les élèves en difficulté qui ont un plan d'enseignement individualisé, non seulement participent aux classes régulières avec son groupe classe et l'enseignant titulaire, mais en plus reçoivent de l'appui en session individuelle, en un à un, avec l'aide enseignant ou l'éducateur spécialisé. Puis tous les plans d'enseignement individualisé, comme tu l'as mentionné, Mylène, les adaptations qui y sont inscrites doivent être respectées. Peu importe la situation, bien sûr, il y a eu des ajustements à faire parce qu'il y a peut-être des adaptations qui sont un peu impossibles en situation actuelle, là, en contexte virtuel, mais du mieux qu'on a pu, les plans ont été révisés, puis les ajustements ont été apportés, puis on continue à offrir des services différenciés, adaptés et même modifiés, si c'est le cas, aux élèves qui ont des besoins particuliers.
Si on pense à l'idée de la conception universelle, puis on pense à notre demi-heure à l'élémentaire en direct avec les élèves, qu'est-ce que les enseignants peuvent faire lorsqu'ils planifient leurs 30 minutes pour assurer l'intérêt, l'engagement et la compréhension de tous les élèves qui les écoutent?
Bien, je pense que c'est toute une question de rythme aussi. Premièrement, le fait que la séance de 30 minutes, si elle est divisée en de courtes séquences et dans de courtes activités, c'est beaucoup plus facile pour tous les élèves de suivre la leçon. L'autre chose qui joue en leur faveur aussi, c'est que les leçons devraient être soit préenregistrées ou enregistrées. Et donc, les élèves peuvent revenir à la leçon et reprendre les notions s'ils ont manqué quoi que ce soit.
qui est bien aussi, malgré la situation, il y a quand même des points positifs, c'est que tout le monde a été forcé un peu de faire un apprentissage accéléré des plateformes et de certains logiciels ou outils technologiques. Et souvent, ces outils-là offrent déjà des outils d'aide pour les élèves en difficulté. Donc, si on pense à la plateforme Microsoft, quand on utilise cette plateforme-là comme plateforme pour la classe virtuelle, on y retrouve déjà des outils spécialisés comme par exemple le lecteur immersif ou l'option de dicter quand on veut par exemple faire son travail ou son devoir. Et sur la même plateforme, l'enseignant peut assigner une tâche différente à un élève en particulier sans que toute la classe le voit aussi. Donc, malgré nous, à cause de la situation, il a fallu s'outiller d'une autre façon qui, en fait, aide déjà les élèves en difficulté si on tire profit de tout ce qui s'offre à nous, bien sûr. C'est à nous en tant que professionnels d'en tirer profit aussi.
Mais si je peux ajouter, au niveau de l'enregistrement, ce qui est vraiment important, mais c'est de permettre aussi aux élèves d'interagir avec l'enseignant quand c'est dans les leçons et aussi de simplifier leurs instructions. Donc, on n'est pas là pour donner comme une espèce de sandwich rempli d'informations, puis on est là pour la déguster. Non, c'est peut-être mieux d'y aller pas à pas, étape par étape, et de monter cette sandwich-là ensemble, et pas juste de l'avoir tout cru dans le bec, où est-ce qu'on est un peu passif dans l'enseignement. Là. Les interactions, les échanges sont très, très importants, puis de vérifier la compréhension de l'enfant tout au cours de cette séance connectée ensemble, en fait.
Oui, et je pense que tu viens de faire des liens avec ce qu'on avait dit la semaine dernière à propos des mini-leçons et interactivité, d'utiliser aussi différents outils parce que c'est pas toujours évident d'avoir toute la classe qui parle en même temps, comme ici, quand nous parlons tous en même temps, ça marche pas, mais d'avoir des affaires comme, tu sais, un petit sondage ou un petit quiz qu'on peut insérer dans notre leçon pour que tout le monde puisse c'est donner leur input en même temps sans que ça devienne chaotique.
Oui, absolument, parce que la voix de l'élève est tout aussi importante en ligne ou en présentiel. Ce que j'aime de ce qu'on dit ici, là, c'est que c'est l'expression que Vicky répète à chaque fois, que les stratégies gagnantes qui étaient en salle de classe sont des stratégies gagnantes qui sont en virtuel. Fait que là, l'idée de morceler, l'idée de... C'est des stratégies gagnantes là, de toute évidence. Jen?
J'ai une autre question à propos de cette partie de l'enseignement qui est la partie en direct avec la classe entière. Qu'est-ce que vous recommandez comme appui visuel? Est-ce que c'est important de voir l'enseignant? Est-ce que ce serait mieux de voir une diapositive qui explique quelque chose? Est-ce que c'est mieux d'alterner entre les deux? Qu'est-ce que vous recommandez?
Je dirais un équilibre. Puis des fois, dans la petite trop, des fois, c'est comme pas assez. Des fois, d'avoir quelque chose de visuel, mais très séquentiel dans l'approche, où est-ce qu'il y a très peu d'informations, puis qu'on met l'accent sur l'information qu'on aimerait que l'élève retienne. Parce que des fois, excusez l'expression en anglais, mais less is more, puis dans ce cas-ci, c'est vrai. S'il y a trop d'informations, c'est très difficile pour les élèves visuellement d'aller la repérer. Puis, je pense que d'avoir la caméra ouverte une fois de temps en temps, ça permet aussi le contact humain. Puis, faut pas oublier que nos élèves sont habitués de nous voir à tous les jours. Donc, ce contact humain-là est très important pour le développement du sentiment d'appartenance, mais aussi pour que le socio-affectif de l'élève, pour que l'élève se sente bien malgré la distance.
Et ça me rappelle de ce qu'on a discuté à notre premier épisode dans notre série virtuelle, de maintenir notre lien affectif. Puis ça vient rejoindre qu'est-ce que Jennifer a dit tantôt, de faire un petit sondage, de s'assurer qu'on est présent pour nos élèves. Et tout ça, c'est très important, surtout durant cette période-là.
OK. Alors là, on a parlé de l'enseignement live. Puis vous avez parlé de collaboration pour ce qui est de l'appui. Qu'est-ce qui est fait en ce moment de manière collaborative pour appuyer nos élèves?
Vous en avez parlé un petit peu la semaine dernière, les filles, je crois, dans votre épisode. En fait, le titulaire est en charge primaire de l'élève en difficulté, mais c'est une équipe. Donc, l'aide enseignant ou l'éducatrice spécialisée ou l'enseignant ressource qui a aussi des temps d'appui et de soutien avec l'élève doit savoir ce qui se passe dans la classe de l'élève pour qu'il y ait un suivi, puis pour pas que l'enseignement puis l'appui partent dans tous les sens. Donc, C'est important de planifier. La planification, c'est toujours important. Planifier ensemble, en groupe, de faire passer les messages. Qu'est-ce qui va être important de revoir avec élève X, Y pendant ta séance d'appui? Quels sont les concepts que j'aimerais que tu vérifies? Quand on parle un peu plus loin d'évaluation, tu sais, dans ces séances-là individuelles, c'est important aussi d'aller voir où en est l'élève puis qu'est-ce qui est à revoir. Je sais aussi qu'il y a des échanges avec la famille pour voir si l'élève va être présent, comment ça se passe, est-ce qu'il y a d'autres besoins. Donc, ces collaborations élèves, équipe pédagogique, mais aussi famille, pour s'assurer que tout le monde est sur le dans la même voie, puis on s'entend, puis que tout le monde est prêt aussi à l'apprentissage, parce que ça aussi, c'est important, vous l'avez touché, il faut tenir compte de chaque réalité familiale de chacun des élèves aussi qu'on appuie. Là. C'est un travail de collaboration et de planification, ça c'est certain.
Un travail de différenciation dans tous les sens.
Oui, bien, il y a de l'appui qui est donné à certains élèves, non seulement pour l'académique, mais il y en a qui travaillent plutôt les habitudes de travail aussi, ou le comportement. Donc, des fois, des séances individualisées qui vont servir à orienter l'élève, peut-être dans son organisation. Tu sais, au secondaire, tu as tel travail à remettre, un projet, comment tu vas organiser ta semaine? Viens, on va voir comment on pourrait diviser tes tâches pour y arriver dans les délais prévus. Donc, c'est pas toujours de l'appui au niveau des apprentissages, mais aussi des habitudes de travail et les comportements. Donc, et là, on a toute une autre série de comportements à développer en période virtuelle. Donc, quand c'est un élève qui a peut-être des comportements impulsifs en salle de classe, bien, il les a quand même, ces comportements impulsifs-là, en classe virtuelle. Donc, il faut avoir des petites séances à part avec l'élève pour lui dire, tu sais, quand tu as quelque chose à dire, tu dois attendre ton tour, ou tu dois le mettre dans le clavardage, ou tu dois attendre que, peu importe selon les règlements qui ont été établis par l'enseignant pour la classe virtuelle. Donc, il y a quand même des adaptations et des objectifs très spécifiques qui étaient individualisés pour un élève qui peuvent continuer à être travaillés en contexte virtuel. Puis c'est important de le faire. C'est juste une autre situation. Puis c'est un transfert. L'élève a transféré son apprentissage d'un contexte à l'autre.
Est-ce que tu dirais, selon toi, que les élèves qui avaient des... Bon, là, on a parlé de l'impulsivité, mais l'idée de travailler en ligne, ça l'ajoute toute une série de connaissances puis toute une série d'habiletés en plus de tout le reste. Fait qu'est-ce que tu dirais qu'il y a des élèves qui n'étaient peut-être pas en difficulté avant, que là, maintenant, vont se développer un peu de difficultés en lien avec tout ça?
Bien, moi, je dirais que l'inverse est aussi vrai. Donc, on a des élèves en difficulté qui ont la technologie d'aide ou qui, parce qu'en fait, ceux qui ne l'avaient pas à la maison, les services se sont organisés pour tout envoyer les ordinateurs dans les différentes familles. Puis ceux qui n'avaient pas d'outils technologiques du tout à la maison en ont également reçu. Fait que même ça, j'en ai des frissons parce que c'est fou tout ce qui a été fait au niveau de l'organisation pour nous assurer que ces élèves-là aient accès à la technologie pour être capables de continuer leur apprentissage. Puis on a des élèves qui sont très, qui ont la technologie d'aide, mais qui ont développé des habiletés encore plus grandes parce que justement, sont plus habiles avec la technologie d'aide. Puis le format d'un cours où c'est une courte leçon et ensuite ils peuvent aller à leur propre rythme pour faire les travaux, mais ça correspond définitivement à leur style d'apprentissage. Fait que d'un certain côté, je pense que dans certains cas, on voit une belle amélioration puis on voit que les apprentissages continuent. Puis effectivement, dans d'autres cas où peut-être que la technologie n'était pas nécessairement leur outil premier, mais c'est sûr que ça demande une adaptation qui est assez grande. Mais je pense que c'est là que les... Puis même pour les adultes, je veux dire, oui, on a un ordinateur, on a un portable, mais de l'utiliser dans ce contexte-ci, on a eu un tas d'adaptation. Là. Fait que c'est normal que les enfants l'aient, qu'ils aient des difficultés ou non. Puis je pense que cette variation-là, présentement, ça va de mieux en mieux. Et si malheureusement, on continue dans cette voie-ci, parce qu'on ne le sait pas encore, on est seulement en début mai, mais je pense que les habiletés vont de plus en plus se développer. Puis il y a des choses qui vont être acquises, qui vont leur servir l'année prochaine d'une façon ou d'une autre. Là.
En t'écoutant, Annie, j'ai des larmes aux yeux parce que j'ai un jeune chez moi qui a eu un PEI, qui a eu la technologie d'aide et qui en vit encore les séquelles, qui a encore des problèmes d'estime de soi parce que ça le distinguait des autres. Alors, il y a peut-être de belles leçons d'en tirer lorsqu'on va revenir en salle de classe. Comment est-ce qu'on pourrait normaliser les différences de ces élèves-là qui sont intelligents, qui ont des forces, mais qui ont des différences aussi?
Absolument.
Là, on parle de les outils technologiques, on parle de l'enseignement virtuel. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer, pour maintenir l'engagement d'un élève en difficulté pendant ce temps de virtuel? Y a-t-il des choses qu'on devrait mettre de côté? Y a-t-il des choses qu'on devrait dire, OK, ça, on fonce? Puis là, je dirais, bon, c'est en lien, tous les enfants sont différents, ils ont tous des objectifs, des intérêts différents, mais globalement, y a-t-il des trucs?
Mais en général, puisque pour tout le monde en ce moment, on se concentre sur les apprentissages essentiels, déjà là, c'est intéressant parce que c'est ça les besoins de nos élèves en difficulté et en ce moment de tous les élèves qui apprennent en virtuel. Mais je dirais que tout comme en salle de classe, en présentiel, des exercices répétitifs, du papier-crayon, de la drill, qui est le plus utile pour les élèves en difficulté. Donc, tu sais, toutes les belles applications que vous nous présentez dans toute la classe recommande ou même quand on suit d'autres tutoriels des services pédagogiques, tu sais, tout ça, là, ça a une multitude de possibilités, puis ça l'inclut plein de styles d'apprentissage, puis ça inclut beaucoup de différenciation et jusqu'à un certain point de l'adaptation aussi. Donc, quand on parle que l'élève peut donner ses réponses à l'oral parce que c'est inscrit dans son PEI, bien, il y a plein de petites vidéos qui peuvent être faites. Il y a, tu sais, vous présentez Flipgrid où on peut en mettre une. Donc, tu sais, se détacher du papier-crayon répétitif, puis plutôt de... C'est une approche multisensorielle, je pense, qui répond à plus de besoins, et pas seulement aux élèves en difficulté, aux élèves, à la population étudiante en général, je trouve.
Oui, parce que le sensoriel, la manipulation, ça va toujours aller toucher la base de notre pyramide dans le contexte de la réponse à l'intervention. Absolument. Absolument. Est-ce que dans tout ça, est-ce que vous, mesdames, vous avez un outil préféré? Si vous aviez là, à choisir un dans un chapeau, là, vous partiriez avec lequel?
Mais ce que j'aime en ce moment, pardon, c'est que c'est le conseil scolaire via Monde, par contre, mais quand même, Microsoft intègre souvent tous ces outils ensemble. Donc, au lieu d'aller chercher beaucoup de logiciels, d'ouvrir plein de fenêtres quand on est en séance de classe virtuelle, je trouve que, par exemple, le lecteur immersif, qui est déjà intégré dans les outils Microsoft, est génial. Tu sais, non seulement tu peux écouter ta lecture, mais ça peut découper en syllabes, tu peux changer la voix, tu peux changer la vitesse. Puis, si les travaux, les devoirs sont envoyés dans le canal devoir de la classe virtuelle, bien, l'enfant a la possibilité de l'ouvrir déjà dans son Word online où tous ces outils-là sont déjà disponibles. Donc, ça décomplique un peu la chose où on n'a pas besoin d'offrir une version autre du travail ou de la lecture ou du devoir, du projet qui a été suggéré. Donc, ça, j'aime ça parce que c'est déjà intégré. Puis, je pense qu'on aime ce qui est un peu moins compliqué en ce moment, là, parce que même les titulaires, tout le monde est en apprentissage. Donc, s'il y a quelque chose qui existe déjà, pourquoi aller chercher ailleurs?
Puis juste pour donner du pouce à ce que France dit, je suis totalement d'accord avec elle parce que comme des outils comme Pear Deck, comme Flipgrid, tout ce qui fait partie de la suite Microsoft, ça fonctionne très bien puis ça assure une variété. Donc, plus que c'est varié, plus que c'est facile pour d'aller accrocher les élèves, puis ça fait qu'on change un petit peu la routine quotidienne d'avoir à se connecter tous les jours puis à vivre la même situation d'apprentissage à tous les jours. Fait que je pense que la variété, c'est bien. Mylène, j'ai oublié l'application que tu as montrée la semaine dernière dans tes capsules avec Marc. C'était comme les petites bouclettes, là.
Le Book Creator.
Ah, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'encore une fois, tu peux tellement différencier puis aller chercher une séquence avec les élèves puis mettre ça, encore une fois, très... je trouvais que le visuel de cette application-là était vraiment génial aussi, là. Mais je pense que pour nos élèves en difficulté, c'est bien une variété, mais il faut aussi leur laisser le temps de s'adapter puis de s'approprier le logiciel ou le programme qui est utilisé avant de passer à un autre. Parce qu'il y en a que ça va aller super bien, qui vont vivre une première fois, puis waouh, ils ont adoré ça, ils vont être prêts à passer à autre chose, mais il y en a d'autres que ça va prendre plusieurs utilisations avant qu'ils se sentent confortables, puis il faut respecter ce rythme d'apprentissage-là. Parce que des fois, on sait très bien qu'en apprentissage, même en salle de classe, le rythme peut être très, très rapide, mais même en contexte virtuel aussi, parce que les séances sont plus courtes. Puis je pense que c'est là que ça vaut la peine parfois de ralentir le rythme, de se fier un peu aux contenus qui sont essentiels, puis après ça, d'aller varier les exercices pour laisser le temps aux élèves de manipuler et d'apprendre par eux-mêmes. Parce que présentement, ils n'ont pas le choix de développer leur autonomie, là. Ce ne sont pas tous les élèves qui peuvent recevoir l'appui constant des parents, selon aussi le travail des parents, mais selon aussi la langue du parent, là. Donc, je pense que de donner ces variétés d'outils-là, que ce soit, encore une fois, multisensoriel, l'aspect visuel, l'aspect de pouvoir cliquer puis de manipuler, mais de respecter le rythme de chacun puis de varier à un rythme qui est équilibré, là.
Oui, parce qu'il faut se rappeler, comme on disait, quand on se préparait, suite à la relâche, là, quand on se préparait à lancer l'enseignement virtuel, on s'était fait bien dire que tout ce qui est fait à la maison va prendre deux fois plus de temps. Alors, s'il faut qu'on aille vite, 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 puis on veut pas créer du stress chez la famille non plus, parce que là, les parents vont s'attendre, bien, si madame le présente, c'est parce que tu es capable de gérer ça, mais des fois, pas tout le temps. Puis des fois, de créer le stress, puis que ça soit deux heures de devoirs, de larmes, bien, ça se peut que petit poulet, il n'ait pas le goût de retourner à l'école demain.
Comme je disais l'autre jour, j'avais donné cette analogie-là, c'est comme dans la salle de classe. Dans la salle de classe, il y a une variété d'outils, mais c'est à nous autres, parce que nous, on connaît bien nos élèves. Alors, tu vas pas présenter un outil à un élève que tu ne l'as jamais approprié. Fait que, approprie-toi-le en premier, en sachant que tes élèves, ça va leur prendre plus de temps de s'approprier à ces outils-là. Puis, justement, parce que je connais ma classe, je sais que pour petit Thierry ou Mathilda, mais ça va être des outils différents. À ce moment-là, la variété est vraiment importante, mais aussi de ne pas oublier quels sont les besoins puis quelles sont les capacités de chacun de ses élèves.
Super. Alors là, on a parlé de vos applications préférées. Jen, si tu es d'accord, je pense que toute la classe recommande cette semaine devrait parler de...
Du lecteur immersif.
Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est un must parce qu'on en a parlé. C'est disponible dans tous les outils disponibles de notre conseil. Maintenant, il faut savoir avec les enseignants, c'est où, c'est quoi, puis comment on l'utilise. Quelles sont les possibilités possibles avec ça? Puis vous allez voir, là, on va tous tomber en amour avec ça. Puis dès septembre, on va le montrer de manière modélisée en salle de classe et explicite parce que c'est un outil absolument fantastique. Alors, on a parlé de l'enfance en difficulté. On a parlé de comment appuyer tout le monde. On a parlé de que c'est important d'être flexible à la maison parce que là, on a entendu que l'enfant en difficulté va vivre le 30 minutes à la maison avec en direct avec l'enseignant titulaire qui va vivre des rencontres d'appui, mais ça se peut qu'il y ait d'autres rencontres prévues à l'horaire parce que, mesdames, vous nous disiez que les services pédagogiques sont en marche dans le conseil à plein régime, je dirais même. Ça, c'est l'équipe de toute la classe et tous les autres membres. Il y a l'équipe des services à l'enfance, service à l'élève, que vous représentez aujourd'hui, mais il y a d'autres équipes qui sont aussi à plein régime pendant cet enseignement à virtuel.
Bien, c'est bien parce qu'on parlait des frissons tantôt, là, et ça, moi, ça me donne des frissons aussi parce que au conseil, vraiment, tous les efforts ont été déployés, là. La machine est ouverte, tout le monde est au travail à temps plein. Donc, on a toujours notre équipe des services orthophoniques qui font du télétravail. Donc, les orthophonistes, les aides orthophonistes se sont outillés, utilisent une plateforme pour offrir des séances de thérapie individuelle aux élèves qui ont des besoins de rééducation de la parole ou en orthophonie. Donc ça, c'est super. Les élèves ne manquent pas ce soutien-là. On a notre équipe de consultants en autisme qui offre aussi des séances d'appui, des séances en collaboration avec les équipes pédagogiques pour voir comment on va outiller ou comment on va rejoindre les élèves atteints de troubles du spectre autistique. Il ne faut pas les oublier aussi. Donc, il y a des stratégies très, très spécifiques pour ces enfants-là qui ont des besoins particuliers. Notre équipe des CP en enfance en difficulté, on est toujours là pour appuyer les écoles aussi. D'ailleurs, certains de mes collègues travaillent étroitement avec les équipes des classes distinctes. Donc, il y a des élèves qui font partie de classes distinctes qui ont des programmes entièrement individualisés et des objectifs personnalisés qui ont besoin d'un appui pour voir comment on transpose ce programme-là qui était en présentiel, comment on le transpose en virtuel, parce que leur apprentissage continue aussi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Annie, dans toute notre équipe là, qui travaille très fort?
Je pense que tu as vraiment répondu à la question là, dans le sens où tu as touché à l'orthophonie, tu as touché au consultant en autisme, au CPED, puis on est encore une fois, puis même entre nous, on travaille en collaboration aussi pour offrir de meilleurs services, puis on est aussi en collaboration avec l'équipe comme tous ceux de la psychologie, donc les psychologues et psychométriciens, parce que c'est sûr qu'il y a des évaluations qui ont été faites avant la pandémie et on continue de faire certains suivis, de faire certains rapports, puis même eux sont en train de, l'équipe sont en train de réfléchir à des moyens de rendre, encore une fois, la lecture d'un rapport plus facile, autant pour les parents que pour les équipes, que pour les enseignants. Donc, à ce niveau-là, il est fort possible que dans les prochaines semaines, un webinaire va sortir pour appuyer tout le monde. Puis, on essaie aussi au niveau de l'équipe ED de rendre l'information la plus accessible possible au travers notre communauté ED dans le EAV. On a une partie de notre équipe aussi qui sont en train de créer un nouveau site web pour encore une fois ajouter au coin des apprentissages, mais aussi aux contenus essentiels. Et est-ce que j'ai oublié une autre plateforme?
C'est ce que je m'en allais dire quand tu parlais des services de psychologie. Il y a aussi toute une autre équipe qui ne font pas nécessairement partie des équipes des services aux élèves, mais qu'on n'oublie pas. C'est toute notre équipe qui travaille en santé mentale. Donc, c'est très important. Les travailleurs sociaux sont encore là. On a des élèves qui ont des plans d'enseignement individualisés, qui ont des besoins spécifiques au niveau de l'anxiété, au niveau, James, tu le mentionnais, de l'estime de soi, puis ont encore besoin, peut-être encore plus en ces temps de pandémie, d'un appui du point de vue moral, puis les travailleurs sociaux sont là aussi, puis sont au travail, sont en contact. Donc, on a essayé et je pense qu'on a réussi, en tout cas au conseil, à appuyer tout le monde, à s'assurer que les services continuent du mieux qu'on peut. Puis, tu sais, chapeau à tous les adultes qui ont su s'adapter quand même du mieux qu'ils peuvent dans ces temps difficiles aussi. Mais chapeau aux élèves qui ont embarqué là-dedans aussi, puis aux parents qui nous appuient. En tout cas, on est tous et toutes impressionnés, je pense, par ça. Peut-être on avait des doutes au début quand le ministère nous disait « on se lance en ligne », on faisait « ouh! Est-ce que ça va fonctionner? » Oui, ça peut fonctionner. Oui, il faut y croire. Puis, si tout le monde met la main à la pâte, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Tout est possible.
c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais cuer Jen pour dire « Jen, on a besoin. » Oui, on
Qu'est-ce
est vraiment...
Qu'est-ce qui est possible?
À Viamonde, tout est possible. Absolument.
Est-ce que tout le monde a eu son moment de frisson, là? Parce que moi, ouais, je viens d'avoir le mien, là.
c'est vraiment full émotion ce matin. Alors, sur ce, mesdames, on veut vous remercier d'avoir pris du temps ce matin et de venir jaser avec nous sur comment aider et comment est-ce qu'on est en train d'aider tous nos élèves du conseil à réussir. C'est vraiment... C'est ça, ça donne des frissons dans le dos, puis sur les bras, puis partout. Puis, on est vraiment contents. On veut vous rappeler que toute la classe recommande cette semaine, on va parler du lecteur immersif en lien avec ce que les dames proposaient. On veut aussi vous dire que la semaine prochaine, le sujet chaud de la semaine va être... Mesdames, roulement de tambour. Brrr. OK, moi je l'ai, je le sais, c'est écrit devant moi. On va ramasser les preuves d'apprentissage et voir comment est-ce qu'on va organiser tout ça, parce que l'air de rien, il y aura bulletin à écrire. Alors, comment est-ce qu'on peut aller faire la collecte des preuves d'apprentissage? Comment est-ce qu'on peut aller organiser les preuves d'apprentissage? Alors, ça va être un sujet qui va arriver juste à point et au bon moment, sachant que là, on est en train de recevoir des documents des élèves à gauche et à droite. Comment est-ce qu'on organise ça pour pas que notre bureau virtuel soit une montagne comme il l'était en classe? Et là, je vois Vicky qui rit parce que c'est ça. On sait qu'il y avait un bureau comme ça dans leur salle de classe. Alors, mesdames, je vous remercie de votre présence. On est super chanceuses de vous avoir ce matin. Et puis, les élèves et le conseil sont chanceux de vous avoir parce que vous veillez à la réussite de tous.
Bien, merci encore de l'invitation. Ça a été vraiment tout un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Oui, ça me fait plaisir. Invitez-nous n'importe quand. Je ne suis pas sorteuse ces temps-ci. Je suis souvent à la maison.
Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Tout pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.